Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Hémet.
Bonjour à tous, bienvenue, appel sur l'actualité, lance le débat jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de la situation des déplacés et des réfugiés centrafricains. Ils sont aujourd'hui plus de 900 000 à avoir fui leur maison depuis le début de la crise, soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger. Or, selon l'Organisation internationale des migrations, 80% des déplacés à Bangui comptent rentrer chez eux le mois prochain. Est-ce le bon moment pour un tel retour? Quelles mesures d'accompagnement? Comment éviter de nouvelles violences? Nous lançons le débat au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre adresse email appel@actu.rfi.fr. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions aux journalistes de RFI pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité avec un premier auditeur en ligne. Il s'agit d'Issoufi. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bienvenue à Bamako.
Merci beaucoup, vous êtes effectivement dans la capitale malienne et vous avez des questions sur la situation financière de l'Argentine. Je vous propose de nous commencer par nous poser votre première question.
Évidemment, j'ai appris que l'Argentine a déposé une plainte auprès de la CEJ contre les États-Unis d'Amérique. À ce sujet, je voudrais savoir pourquoi l'Argentine a-t-elle décidé de porter une plainte contre les Américains?
Alors, pour vous répondre, déjà, on va commencer par là, par ce premier point. Pour vous répondre, Patricia Lecomte du service éco de RFI est là. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Alors, effectivement, c'est un dossier pas évident à comprendre hein, pour les gens comme moi, d'ailleurs, qui ont du mal un peu avec l'économie. Peut-être, pour commencer, un peu de pédagogie, hein, pour commencer, un petit retour en arrière, Patricia.
Eh bien oui, il faut se souvenir, en 2001, l'Argentine fait faillite. À ce moment-là, tous les Argentins détenteurs d'obligations d'État savent que leurs créances ne valent plus rien. Alors, plutôt que de les garder et d'attendre un éventuel remboursement, ils préfèrent les céder au plus offrant. Et le plus offrant, eh bien, ce sont des fonds d'investissement qui rachètent en masse et, bien évidemment, en dessous de la valeur réelle des créances. Mais cependant, la dette court toujours, elle a simplement changé de main, et ces fonds sont suffisamment structurés pour exiger de l'État argentin qu'il les rembourse. Alors, en général, les fonds spéculatifs acceptent une restructuration de la dette, la négociation se solde par une décote. Dans le cas qui nous intéresse, donc l'Argentine, elle croule sous une dette de 100 milliards de dollars d'obligations d'État. Elle négocie et elle obtient de ses nouveaux créanciers une décote de 70% du montant des sommes à rembourser. Mais deux fonds américains appelés fonds vautours et qui représentent à eux deux 1% de la dette refusent toute négociation. Ils exigent le remboursement de la valeur intégrale des bons, soit 1,3 milliard de dollars. Ce que bien évidemment Buenos Aires refuse. Mais le 16 juin dernier, la Cour suprême américaine a tranché. Le juge Thomas Grisa, en charge de l'affaire, a donné raison aux deux fonds spéculatifs américains et contraint l'Argentine à les rembourser en priorité. Le 26 juin, le juge new-yorkais a décidé de bloquer 539 millions de dollars sur un compte de la banque américaine Bank of New York. Cette somme correspond au dernier remboursement de dette argentine aux créanciers privés qui, eux, ont accepté une décote de 70%. Cette décision empêche l'Argentine d'honorer ses échéances du 30 juin avec l'essentiel donc de ses créanciers privés et la pousse de facto à se déclarer en défaut de paiement partiel. Alors pour autant, l'Argentine ne désarme pas. Si elle a décidé de porter plainte contre les États-Unis, c'est parce qu'elle est tenue à un traitement égalitaire entre tous ses créanciers jusqu'à 2015. En clair, si elle rembourse ne serait-ce qu'un seul de ses créanciers à hauteur de 100% de la valeur nominale, tous les autres créanciers, y compris hein, tous ceux qui ont accepté la décote de 70%, eh bien aussi peuvent exiger les mêmes conditions de remboursement, auquel cas l'Argentine devrait rembourser entre 15 à 20 milliards de dollars, une somme colossale qui la propulserait réellement en faillite pour le coup.
Issoufi, vous aviez une deuxième question, on vous écoute.
La deuxième question est de savoir quelle a été la réaction américaine suite à ce dossier.
C'est vrai qu'à ce moment-là, la balle était dans le camp des États-Unis, notamment de ces fameux hein, fonds spéculatif.
Et oui, on comprend bien que ces fonds vautours ne lâchent rien. Alors depuis le début du litige, ils ont toujours refusé la moindre négociation, considérant que ce serait la porte ouverte à davantage de laxisme de la part des États en difficulté. Mais la vraie raison n'est pas là, bien évidemment, elle est financière. Avec un investissement initial de 50 millions de dollars lors du rachat des bons, eh bien le jugement américain permet au fonds spéculatif NML de récupérer 800 millions de dollars, soit une culbute de 1600%. Alors pour le moment, des discussions ont lieu, mais elles n'ont toujours pas abouti sur le moindre accord. Ne voyant pas d'issue, le 7 août, l'Argentine a porté plainte contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice de La Haye, et l'Argentine les accuse de violer sa souveraineté et son immunité judiciaire. Alors maintenant, est-ce que la Cour internationale de justice va statuer ? En tout cas, elle a fait savoir qu'aucune suite ne sera donnée tant que Washington n'aura pas reconnu la compétence de ce tribunal international dans cette affaire. Si les États-Unis jugent que le contentieux ne relève pas de la CIJ, Buenos Aires considère que les Américains auront alors l'obligation d'indiquer un moyen alternatif pour parvenir à une solution pacifique, comme le veut la Charte des Nations Unies.
Issoufi, vous aviez une troisième et dernière question, si je ne me trompe pas.
Quelles suites peuvent être données à ce dossier ?
Patricia, qu'est-ce qui peut se passer là ?
Eh bien, en tout cas, le bras de fer continue et Buenos Aires a visiblement changé de stratégie. Afin de reprendre le contrôle de la gestion de sa dette publique, l'Argentine propose de rembourser ses créanciers privés sur son sol. Une opération qui lui permet de contourner la justice américaine. Il faut savoir qu'en contrepartie d'une restructuration de sa dette publique en 2005 et en 2010, Buenos Aires avait proposé à ses créanciers, en signe de garantie, d'effectuer le versement des échéances de la dette sur des comptes bancaires américains. Mais là, aujourd'hui, les remboursements de cette dette transitant par les États-Unis étant bloqués par la justice américaine, la présidente Cristina Kirchner a donc décidé de proposer de passer le versement des échéances de la dette de la place financière de New York à celle de Buenos Aires. Cette proposition intervient une semaine après que l'Argentine ait versé 3 milliards de dollars à la Banque mondiale et à la Banque interaméricaine de développement, une manière de prouver évidemment sa solvabilité. Alors aujourd'hui, la banque argentine Banco Nación a donc été désignée au lieu de la Bank of New York pour effectuer les remboursements. Du côté du fonds vautour Aurelius, la réponse ne s'est pas fait attendre. Il a tout simplement refusé l'offre du gouvernement argentin, l'accusant de bafouer la justice américaine. Quant à l'autre fonds détenu qui se nomme NML, qui est détenu par le milliardaire Paul Singer, on ignore encore s'il acceptera cette modalité. Quoi qu'il en soit, l'incertitude demeure sur le choix que feront les autres créanciers, car cette mesure est basée sur le volontariat. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'avec cette annonce, l'espoir d'un règlement du litige entre Buenos Aires et les fonds spéculatifs américains s'éloigne encore davantage.
Merci beaucoup Patricia Lecomte. Voilà, j'étais un peu fâché avec l'économie, maintenant j'y vois un peu plus clair. Merci beaucoup à Issoufou qui était en ligne avec nous depuis Bamako au Mali. 33 9 693 693 70 pour nous joindre à tout moment. 09 693 2 fois 70. On continue à parler économie ce matin dans les questions à la rédaction avec Groggy Louis. Bonjour.
Ouais, bonjour, aux éditeurs de RFI et bienvenue à Abidjan.
Merci beaucoup. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous aviez trois questions concernant l'appel au secours du Ghana au Fonds monétaire international. Je vous propose de nous poser pour commencer vos deux premières questions.
Tout à fait. Alors, on a appris sur RFI que le Ghana vient de solliciter l'aide du FMI pour faire face à la dépréciation de sa monnaie. Alors, à ce sujet, je voudrais savoir comment peut-on expliquer cette aide alors qu'au cours de la dernière décennie, l'économie ghanéenne a connu une croissance constante. En quoi consiste cette aide ? Et peut-on imaginer des contreparties de la part du FMI ?
Voilà, effectivement. Et pour vous répondre, Jean-Pierre Boris est là. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Sébastien.
C'est vrai que la croissance était bonne au Ghana, je crois 7,5% par an pendant ces 10 dernières années. Pour autant, la situation s'est un peu gâtée ces derniers temps.
Oui, mais Groggy Louis a raison d'être surpris parce que le Ghana, c'était depuis 10 ans la success story africaine par excellence. C'est un pays démocratique, stable, avec des élections présidentielles et législatives qui se tiennent en bon ordre, des alternances au pouvoir, une économie bien gérée, le pays est le deuxième producteur exportateur de cacao au monde, un gros exportateur d'or, et puis tout d'un coup on découvre que ben non, ça marche pas si bien que ça et qu'il y a des problèmes. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est une crise de croissance, c'est pas quelque chose de dramatique, mais voyons ce qui s'est passé. Effectivement, la croissance est très forte. En 2000 11, elle a même été de 14% dans l'année, parce que cette année-là, le Ghana est devenu exportateur de pétrole. Et c'est peut-être là l'origine des problèmes, parce que les gouvernements ghanéens ont laissé filer les dépenses publiques, en particulier ont augmenté énormément les salaires des fonctionnaires, qui cette année-là, 2012, ont augmenté de 47%. En 2013, par exemple, pour donner un autre chiffre, mais rassurez-vous Sébastien, je vois que vous n'aimez pas l'économie, je vais pas vous embarrasser.
Ça, j'aime l'économie, j'ai juste du mal à la comprendre et vous êtes là pour m'expliquer.
Alors, je vais pas vous accabler de chiffres. L'an dernier, 70% des dépenses de l'État ghanéen, c'était les salaires des fonctionnaires. On voit bien que c'est une situation totalement intenable. Donc, il y a d'un côté ce problème de gestion des finances publiques et de l'autre côté, il y a la rançon du succès parce que le pays s'est développé, il y a une classe moyenne qui émerge, il y a des consommateurs qui se multiplient et le pays ne produit pas à hauteur de ce dont... de ce que ces gens, que ces citoyens ghanéens qui ont un niveau de vie, un pouvoir d'achat, que ce que ces citoyens ghanéens veulent acheter. Donc, on importe de plus en plus, et on n'a pas les finances publiques, les réserves de dollars nécessaires pour acheter. Donc, le CEDI se déprécie. Et il s'est déprécié énormément. Depuis 4 ans, il a perdu... Il a été divisé par 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il fallait un CEDI quasiment pour acheter un dollar. Aujourd'hui, il faut 4 CEDI pour acheter un dollar.
C'est une des pires performances au monde. Hein.
Oui, c'est une des pires performances au monde. Ce qui veut dire que que les prix des produits importés sont multipliés par 4 et que pour les consommateurs, c'est insupportable.
Donc déficit budgétaire, hein, selon le cabinet d'ailleurs Capital Economics en 2013, ce déficit atteignait 10% du PIB. Et puis vous disiez hein, l'inflation, hein, la flambée des prix au Ghana. Alors voilà, le FMI étudie le dossier, donc il pourrait fournir une aide. Est-ce qu'il y a des contreparties prévues ou possibles ?
De toute façon, le FMI est appelé au secours en deux temps, si vous voulez. D'abord, les autorités ghanéennes ont envisagé de l'appeler au secours pour avoir des conseils techniques, c'est-à-dire comment résorber cette situation, comment stabiliser la monnaie ghanéenne. Et on voit que les solutions semblent, d'après ce que je raconte, un peu évidentes. Il suffit de calmer cette flambée des dépenses publiques, de limiter les importations. Mais ça veut dire... limiter le pouvoir d'achat, tout ça. Et c'est probablement ce que le FMI va demander au gouvernement ghanéen de faire. Mais ça, c'était la première étape, c'est le conseil technique. Parce que la deuxième étape, c'est l'aide financière. Est-ce que le FMI va être sollicité par les autorités ghanéennes pour... apporter une aide financière, auquel cas les conditions seraient évidemment strictes, c'est-à-dire que le FMI n'apporte son aide que quand les gouvernements qui la sollicitent mettent en place des mesures de politique de stabilisation, comme on a l'habitude de dire.
Mesures de stabilisation, effectivement, mais c'est contrepartie, c'est une inquiétude de l'opposition ghanéenne qui craint notamment des mesures d'austérité. Hein, on a du mal à sortir le mot en France, mais c'est bien de ça dont il s'agit, notamment un gel des salaires, etc.
Bien sûr, mais... C'est ce dont je vous parlais, limiter le pouvoir d'achat, limiter les importations, limiter la hausse des salaires dans la fonction publique, c'est tout cela dont il s'agit pour limiter la dérive de l'économie ghanéenne.
Alors justement, on est en train de répondre à la prochaine question de Groggy Louis. Groggy Louis, quelle était votre dernière question ?
Alors, ma dernière question était de savoir quelles pourraient être les répercussions de cette aide-là pour les populations ghanéennes.
Alors effectivement, il y a ces mesures d'austérité, on vient de le dire, qui peuvent avoir des conséquences, mais il y a aussi l'aide que peut apporter le FMI. Est-ce que ça peut se ressentir dans la vie de tous les jours des Ghanéens ?
L'aide du FMI, elle est toujours symbolique, c'est-à-dire le FMI et le gouvernement concerné mettent au point un programme économique, le FMI sanctionne cet accord en déboursant quelques millions ou centaines ou dizaines ou centaines de millions de dollars, mais c'est toujours une somme symbolique qui est un feu vert donné aux autres prêteurs, aux autres institutions financières internationales, publiques ou privées, pour apporter elles aussi leur aide. Donc l'aide du FMI en elle-même n'apportera pas de soulagement aux populations ghanéennes, aux consommateurs ghanéens, aux citoyens ghanéens. C'est la normalisation, la normalisation de la situation économique ghanéenne qui, elle, apportera à terme un réconfort, si on peut dire, aux citoyens ghanéens.
Merci beaucoup Jean-Pierre Boris du service économie de RFI. On salue Grogui Louis qui nous appelait donc depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. 33 9 693 693 70. Nous sommes en avance aujourd'hui. On vient de terminer les questions à la rédaction. Donc on va enchaîner tout de suite sans temps mort avec le débat du jour. Je le rappelle, c'est sur la situation des réfugiés, des déplacés centrafricains selon l'Organisation internationale des migrations. Il y a eu un sondage intéressant qui est sorti avant-hier, 80% des déplacés à Bangui comptent rentrer chez eux le mois prochain. C'est en hausse constante chaque mois, hein, puisque l'OIM fait ce genre de sondage depuis 7 mois maintenant. C'était la 7e édition. Rappelons-le, 900 000 centrafricains ont fui leur foyer hein, depuis le début de la crise, soit à l'intérieur du pays, donc ils sont déplacés, soit à l'étranger, donc là ils sont réfugiés. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour un retour chez soi? Quelles mesures d'accompagnement? On a toujours de l'instabilité, de l'insécurité. Comment éviter de nouvelles violences avec le retour de ces gens chez eux? Nous lançons le débat. Donc je rappelle le numéro 33 9 693 693 70 et 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. Un premier auditeur en ligne. Nous sommes avec Jean-Paulin. Vous êtes à Bangui. Bonjour Jean-Paulin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de la région mondiale.
Que pensez-vous, vous, de cette volonté de retour des déplacés, notamment à Bangui?
Alors, en ce qui concerne le retour des déplacés internes ainsi que à tous les réfugiés centrafricains qui se trouvent dans les pays limitrophes, moi, je pense qu'il faut faire la campagne de ce retour-là au cas par cas. Parce que il y en a qui ne sont pas vraiment... du tout d'accord pour retourner chez eux, parce que quelque part on dit c'est pas parce qu'on a faim qu'on accepte de manger avec le diable. Donc dans certains quartiers, il y a encore l'insécurité. C'est vrai qu'on parle de 80% des déplacés qui veulent bien rentrer chez eux, mais il y a encore l'insécurité dans certains quartiers. Et pour cela, on ne peut pas parler de retour chez soi maintenant, Sébastien. À partir de...
C'est vrai qu'on l'insécurité, on l'a encore vu et très récemment, hier, un troisième arrondissement au PK5, 5 personnes tuées dans une fusillade après une opération de désarmement. Le PK5 qui était réputé pour s'être calmé, hein, le PK5 qui est un peu comme une enclave musulmane au sein de Bangui. Donc pour vous, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'on peut rentrer quand même dans certains quartiers où ça se calme?
Dans certains quartiers où il y a la sécurité, les gens peuvent retourner sur l'île, là, il n'y a pas de problème. Mais dans d'autres quartiers, il y a deux problèmes. Là, je souligne le premier problème, c'est le problème de l'insécurité. Vous venez de donner l'exemple du PK5. Et le deuxième problème, c'est que dans certains quartiers, il y a eu des maisons qui ont été complètement détruites. Mais si on demande à ceux-là de retourner chez eux, ils vont passer dans quel camp? Ou bien ils vont dormir sous peut-être les tentes. Alors, dans ce cas, il faut peut-être trouver une autre solution pour cela. C'est bien d'encourager les gens de retourner chez eux, mais dire aux gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de tentes, de retourner chez eux, c'est une manière de se moquer de ces gens-là. Donc, il faut des mesures d'accompagnement qui puissent aider ces personnes-là à retourner chez eux. Et peut-être créer un centre ou bien un site un site où les gens peuvent passer d'abord quelques temps, le temps que le gouvernement ou bien la communauté de nation puisse trouver des abris pour ces personnes-là. On ne peut pas accepter à ce que les gens retournent dans une maison complètement découverte.
Merci beaucoup Jean-Paulin. Effectivement, la crainte notamment de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir d'abri avec les combats, énormément de logements ont été détruits. C'est une crainte qui est revenue très souvent dans le sondage de l'Organisation internationale des migrations. Hein. La disponibilité de logements, c'est la priorité pour 39% de ceux qui veulent rentrer. Donc un retour, oui, mais sous conditions, hein, pas comme ça. Et c'est une préoccupation qui revient très souvent sur Facebook notamment, on a beaucoup de messages, beaucoup de réactions ce matin. Les tensions existent encore en RCA, nous dit Waoudia. Un tel retour est prématuré pour le moment. Un climat paisible doit être définitivement installé pour éviter de nouvelles émeutes. Effectivement, il y a encore des violences, on l'a encore vu hier au PK5. Wilfried qui nous dit il vaut mieux qu'ils attendent jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Donc là, il se place sur le terrain politique. On n'a même pas encore de gouvernement. Donc effectivement, la transition politique va durer encore longtemps. longtemps. Cœur de gosse, lui, alors, est très très franc. Il dit ce serait un suicide de rentrer maintenant en RCA. Mais entre nous, ont-ils le choix entre la peste et le choléra? Ils choisissent le moindre mal. Effectivement, la situation dans les camps de réfugiés déplacés est difficile. On continue à en débattre de l'autre côté du journal dans 10 minutes.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.